Chapitre 54. La leçon de voile. Il en vint également 16 de l'ordre des marchevents, et avec eux, un nombre considérable d'écuyers. Ils trouvèrent les clivecieux en train de séparer les innocents des coupables. S'ensuivit un grand débat. Extrait du livre des Radieux, chapitre 28, page 3. Shallan sortit de la voiture sous une pluie fine. Elle portait le manteau blanc et le pantalon de la version sombre iris d'elle-même qu'elle avait baptisé voile. La pluie légère tombait sur le bord de son chapeau. Elle avait passé trop de temps à parler avec Adeline après son duel et avait dû se presser pour arriver à temps à ce rendez-vous qui se déroulait dans les collines inconquises à une bonne heure de trajet des camps de guerre. Mais voilà qu'elle y arrivait à temps et costumée. Elle s'avança d'un pas énergique, écoutant la pluie crépiter sur la pierre autour d'elle. Elle avait toujours aimé ce genre de pluie. Sœur cadette des tempêtes majeures, elles apportaient la vie sans la fureur. Même ces terres d'orage désolées à l'ouest des camps s'épanouissaient à la venue de la pluie. Les boutons de roche s'ouvraient, et bien qu'ils ne possèdent pas de bourgeons comme ceux de chez elles, ils déployaient eux aussi des lianes d'un vert vif. L'herbe assoiffée jaillissait des trous et refusait de se retirer jusqu'à se faire quasiment piétiner. Certains roseaux produisaient des fleurs afin d'attirer les crémillons qui se nourriraient des pétales et, ce faisant, se couvriraient de spores qui donneraient naissance à la génération suivante, une fois mêlées aux spores d'autres plantes. Si Shallan s'était trouvé chez elle, il y aurait nettement plus de lianes, au point qu'il serait difficile de marcher sans trébucher. Pour sortir dans une zone boisée, il faudrait une machette afin d'avancer de plus d'un mètre. Ici, la végétation devenait colorée, mais pas envahissante. Shallan sourit face à ce magnifique décor, cette pluie légère, cette flore splendide. Un peu d'humidité était un prix dérisoire pour le bruit mélodieux de la pluie. L'air propre et frais, et ce ciel superbe rempli de nuages qui parcourait toute la gamme des gris. Shallan marchait avec une sacoche étanche sous le bras, tandis que le cocher de sa voiture de location, elle ne pouvait pas utiliser le véhicule de ses barials pour ce qu'elle allait faire aujourd'hui, attendait son retour comme il en avait reçu la consigne. La voiture était tirée par des parches plutôt que par des chevaux, mais ils étaient plus rapides que les chules et avaient rempli leur office. Elle se dirigeait vers un flanc de coteau un peu plus loin, destination indiquée sur la carte qu'elle avait reçue par Ekokalam. Elle portait une belle paire de bottes bien solides. Cette tenue empruntée à Tin était peut-être inhabituelle, mais Shallan s'en réjouissait. Le manteau et le chapeau la protégeaient de la pluie, et les bottes lui permettaient une prise sûre malgré la pierre glissante. Elle contourna la colline et découvrit qu'elle était brisée de l'autre côté, car la pierre s'était fendue et effondrée en une petite avalanche. Les strates de crémant durci apparaissaient nettement sur les bords des fragments de pierre, indiquant qu'il s'agissait d'une fracture récente. Dans le cas contraire, le nouveau crémant aurait masqué ses différences de couleur. La fissure formait une petite vallée dans le flanc de la colline, remplie de crevasses et d'arêtes formées par les éboulis. Elles avaient attrapé des spores et des tiges charriées par le vent, qui avaient à leur tour créé une explosion de vie. Partout où elles étaient abritées du vent, les plantes trouvaient prise et se mettaient à pousser. Cet enchevêtrement de verdure poussait de manière aléatoire. Ce n'était pas là un véritable lait, où la vie serait en sécurité sur le long terme, mais un abri temporaire qui ne tiendrait que quelques années au maximum. Pour l'heure, les plantes poussaient avec enthousiasme, parfois les unes par-dessus les autres, se déployaient, bourgeonnaient, tremblaient, se tortillaient, vivaient. C'était un exemple de nature à l'état brut. Le pavillon, en revanche, était tout le contraire. Il abritait 4 personnes assises dans des fauteuils trop raffinés par rapport au décor. Il prenait un encas, réchauffé par un brasero au milieu de la tente ouverte sur les côtés. Tout en approchant, Shallan captura un souvenir de leur visage. Elle les dessinerait plus tard, comme elle l'avait fait avec le premier groupe de 100 des spectres qu'elle avait rencontrés. 2 d'entre eux étaient déjà présents la fois précédente, pas les 2 autres. La femme masquée qui la mettait si mal à l'aise semblait absente. Emrez, qui se dressait fièrement de toute sa taille, inspectait sa longue sarbacane. Il ne leva pas les yeux lorsque Shallan entra sous l'auvent. « J'aime apprendre à utiliser les armes locales », déclara Emrez. « C'est l'une de mes excentricités. quoiqu'elle me semble justifiée. Si vous voulez comprendre un peuple, apprenez ses armes. La façon dont les hommes s'entretuent en dit bien plus sur une culture que toute l'ethnographie des érudits. Il leva son arme vers Chalan, qui s'immobilisa. Puis il se tourna vers la fissure et souffla, décochant une fléchette vers le feuillage. Chalan alla se placer près de lui. La fléchette avait cloué un crémillon à l'une des tiges des plantes. La petite créature aux pattes nombreuses se débattait furieusement pour tenter de se libérer, même si la fléchette qui la transperçait allait certainement lui être fatale. « C'est une sarbacane parchendi, » observa Emrez. « Qu'est-ce que ça dit sur leur compte, à votre avis, petit couteau ?»«
De toute évidence, elle ne sert pas à tuer du gros gibier, » répondit Chalan. « C'est logique. Les seuls gros gibiers que je connaisse dans les parages sont les démons des gouffres, que les parchendi sont censés avoir adorés comme des dieux. »
Elle n'était pas persuadée que ce soit réellement le cas. Les premiers comptes rendus, qu'elle avait lus en détail sur l'insistance de Jasna, posaient l'hypothèse selon laquelle les dieux parchendi étaient les démons des gouffres. Mais ce n'était pas très clair.
« Ils devaient s'en servir pour chasser du petit gibier, » poursuivit Chalan. « Ça signifie qu'ils chassaient pour se nourrir, plutôt que pour le plaisir. »«
Pourquoi dites-vous ça ?» demanda Emrez.
« Les hommes qui chassent pour la gloire cherchent des proies grandioses, » expliqua Chalan. « Des trophées. Cette sarbacane est l'arme d'un homme qui cherche simplement à nourrir sa famille. »«
Et s'il l'utilisait contre d'autres hommes ?»«
Elle ne serait pas utile à la guerre, » répondit Chalan. « Trop petite portée, j'imagine. » Et puis, les parchendi ont déjà des arcs. J'imagine qu'on doit pouvoir s'en servir pour un assassinat. Mais si c'était le cas, je serais très curieuse de le découvrir.
Et pourquoi donc ? S'enquit Emrez.
C'était une sorte de mise à l'épreuve. Eh bien, répondit Chalan, la plupart des populations indigènes, les autochtones de Silnacen, les peuples Réchi, les coureurs des plaines iriales, n'ont pas de véritable concept de l'assassinat. Pour autant que je le sache, ils ne paraissent pas apprécier les combats. Les chasseurs sont trop précieux, si bien qu'une guerre, dans ces cultures, impliquera beaucoup de cris et de postures, mais très peu de morts. Ce type de société fanfaronne ne semble pas du genre à avoir des assassins.
Et cependant, les Parchendi en avaient envoyé un, contre les Aleti. Emrez étudiait Chalan, la scrutait de ses yeux indéchiffrables, tenant légèrement sa longue sarbacane du bout des doigts.
« Je vois, » reprit-il enfin, « que Tine a choisi une érudite comme apprentie cette fois-ci. Voilà qui me semble inhabituel. »
Chalan rougit. Elle comprit alors que la personne qu'elle devenait lorsqu'elle adoptait ce chapeau et ses cheveux noirs n'était pas une imitation de quelqu'un d'autre, une personne différente. Ce n'était qu'une version de Chalan elle-même, ce qui pouvait se révéler dangereux.
« Donc ?» demanda Emrez en tirant une autre fléchette de la poche de sa chemise. « Quel prétexte Tin a-t-elle fourni aujourd'hui ?»«
Un prétexte ?» répéta Chalan.
« Pour avoir échoué dans sa mission. »
Emrez chargea la fléchette dans la sarbacane.
« Échoué ?» Chalan sentit la sueur froide picoter sur son front. Mais elle avait espionné le camp d'Amaram pour voir s'il s'y produisait quoi que ce soit d'inhabituel. Elle y était retournée le matin même, la véritable raison de son retard au duel d'Adoline, en adoptant le visage d'un ouvrier. Elle avait écouté pour voir si quiconque parlait d'une effraction ou de soupçons nés chez Amaram. Elle n'avait rien découvert. De toute évidence, Amaram n'avait pas rendu ses soupçons publics. Après tout le mal qu'elle s'était donné pour masquer son incursion, elle avait échoué. Elle n'aurait sans doute pas dû s'en étonner, mais elle ne put s'en empêcher.
« Je... » commença Chalan. « Je commence à me demander si Tine est réellement malade. »
poursuivit Emrez en levant sa sarbacane et en tirant une nouvelle fléchette dans le feuillage. « Pour qu'elle n'ait même pas essayé de mener à bien la tâche qu'on lui assignait. »«
Même pas essayé ?»
répéta Chalan, déconcerté.
« Ah bon ? C'est ça, son prétexte ?»
demanda Emrez. « Elle aurait essayé et échoué. Je fais surveiller cette maison. Si elle avait... » Il s'interrompit. Quand Chalan secoua sa sacoche pour en chasser l'eau, puis l'ouvrit précautionneusement et en tira une feuille de papier. C'était une représentation de la pièce verrouillée d'Amaram avec ses cartes sur les murs. Elle avait dû deviner certains détails. Il faisait noir et son unique sphère n'éclairait pas grand-chose. Mais elle la supposait assez fidèle. Emrez lui prit le dessin et le leva vers ses yeux. Il se mit à l'étudier, laissant Chalan nerveuse, en nage.
Il est rare, déclara Emrez, qu'on me prouve que je suis un idiot. Félicitations.
Était-ce une bonne chose?
Tin ne possède pas ce talent, poursuivit Emrez, inspectant toujours la feuille. Vous avez vu cette pièce vous-même?
Ce n'est pas sans raison qu'elle a choisi une érudite comme assistante. Mes talents sont censés compléter les siens.
Emrez baissa la feuille. Étonnant. Votre maîtresse est peut-être une voleuse hors pair, mais elle a toujours fait preuve d'un piètre discernement dans le choix de ses associés.
Il parlait avec un tel raffinement. Ça semblait mal assorti avec son visage couvert de cicatrices, sa lèvre de travers et ses mains parcheminées. Il parlait comme un homme qui passe ses journées à siroter du vin en écoutant de la musique raffinée, mais ressemblait à quelqu'un dont on avait souvent brisé les os et qui avait souvent dû rendre la faveur.
Dommage que ces cartes ne soient pas plus détaillées, commenta Emrez en inspectant de nouveau le dessin. Shallan, serviable, sortit les 5 autres dessins qu'elle avait faits pour lui. 4 d'entre eux représentaient les cartes murales en détail. L'autre, une version plus précise encore des parchemins muraux, comportant les inscriptions d'Amaram. Sur chacun, les inscriptions elles-mêmes étaient indéchiffrables et se limitaient à des lignes sinueuses. Shallan l'avait fait volontairement. Personne n'attendrait d'une artiste qu'elle soit en mesure de capturer de tels détails de mémoire, bien qu'elle en soit effectivement capable. Elle voulait garder pour elle les détails de ces inscriptions. Elle comptait gagner la confiance de ces gens afin d'apprendre ce qu'elle pourrait, mais elle ne les aiderait pas plus qu'elle n'y serait contrainte. Emrez tendit sa sarbacane sur le côté. La jeune fille masquée s'y trouvait, tenant le crémillon que Emrez avait transpercé ainsi qu'un vison mort avec une fléchette plantée dans le cou. Non, sa patte était agitée de spasmes. Il n'était qu'assommé.
La fléchette était-elle empoisonnée dans ce cas? Shallan frissonna. Où cette femme s'était-elle cachée? Ses yeux sombres la fixaient sans ciller, et le reste de son visage était caché derrière ce masque de carapace et de peinture.
Stupéfiant, commenta Emrez, qui étudiait toujours les dessins de Shallan. Comment êtes-vous entré? Les fenêtres étaient surveillées.
Était-ce ainsi que Tin aurait procédé, en se faufilant de nuit par l'une des fenêtres? Elle n'avait pas formé Shallan pour ce genre de choses, seulement pour les accents et les imitations. Peut-être avait-elle remarqué que Shallan, qui trébuchait parfois en marchant, ne serait pas très doué pour les vols acrobatiques.
Ses dessins sont magistraux, déclara Emrez, qui se dirigea vers une table pour y disposer les images. Un triomphe, sans aucun doute. Quel talent artistique!
Qu'était devenu l'homme dangereux et dépourvu d'émotions qu'elle avait affrontées lors de sa première rencontre avec les Sangs des Spectres? En proie à une émotion visible, il se pencha pour étudier les images, une à la fois. Il sortit même une loupe pour en inspecter les détails. Elle ne lui posa pas la question qui lui brûlait les lèvres. Que fait Amaram? Savez-vous comment il a obtenu sa lame d'éclat? Comment il a tué Elaran Davar?
Son souffle resta coincé dans sa gorge alors qu'elle y pensait. Mais une partie d'elle avait admis depuis des années que son frère ne reviendrait pas. Ça ne l'empêcha pas d'éprouver une haine très nette et surprenante pour l'individu Meridas Amaram. Alors? Demanda Emrez en lui lançant un coup d'œil. Venez vous asseoir, mon enfant. Avez-vous fait ça vous-même?
En effet, répondit Shallan en réprimant ses émotions. Emrez venait-il de l'appeler mon enfant? Elle avait volontairement fait paraître cette version d'elle-même plus âgée, avec un visage plus anguleux. Que fallait-il qu'elle fasse d'autre? Qu'elle s'ajoute des cheveux blancs?
Elle s'installa dans le fauteuil à côté de la table. La femme masquée apparut près d'elle, tenant une coupe ainsi qu'une bouilloire fumante. Shallan hocha la tête, hésitante, et fut récompensée par une coupe de vin orange chaud. Elle en but une gorgée. Elle n'avait sans doute pas à craindre qu'il soit empoisonné, car ces gens auraient pu la tuer à n'importe quel moment. Les autres, sous le pavillon, s'entretenaient à voix basse, mais Shallan n'en distinguait pas un mot. Elle avait la sensation d'être en représentation face à un public.
J'ai recopié une partie du texte pour vous, déclara Shallan en sélectionnant une page d'écriture. Il s'agissait de lignes qu'elle avait choisies spécifiquement de leur montrer. Elle n'en dévoilait pas trop, mais inciterait peut-être Emrez à aborder le sujet.
Comme nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps dans la pièce, je n'ai obtenu que quelques phrases.
Vous avez passé tout ce temps là-dedans à faire ces dessins et si peu à recopier le texte ? S'étonna Emrez.
Ah, répondit Shallan. Non, j'ai tracé ces dessins de mémoire.
Il leva les yeux vers elle, la mâchoire entrouverte, tandis qu'une expression d'authentique surprise passait sur son visage avant qu'il ne s'empresse d'afficher à nouveau son humeur égale et son assurance habituelle. Ce n'était sans doute pas très judicieux de le lui dire, comprit Shallan. Combien de personnes étaient capables de dessiner si bien de mémoire ? Shallan avait-elle démontré publiquement son talent dans les camps de guerre ? Pas pour autant qu'elle le sache. À présent, elle allait devoir garder secret cet aspect de son talent, de peur que les sangs des spectres n'établissent de lien entre Shallan, la Paliris bien née, et Voile, l'arnaqueuse et artiste Sombriris. Nom des foudres. Enfin, elle devait fatalement commettre quelques erreurs. Au moins celle-ci ne menaçait-elle pas sa vie. Du moins l'espérait-elle.
« Jean !»
aboya Emrez. Un homme aux cheveux dorés et au torse nu sous une robe de chambre ouverte se leva de l'un des fauteuils.
« Regardez-le !»
ordonna Emrez à Shallan. Elle captura un souvenir.
« Jean, laissez-nous !»
Voile, vous allez le dessiner. Elle n'eut pas d'autre choix que de lui obéir. Tandis que Jean s'éloignait, grommelant tout bas contre la pluie, Shallan se mit à dessiner. Elle traça un croquis entier, pas simplement son visage et ses épaules, mais une étude dans son environnement, qui incluait les rochers tombés à terre en arrière-plan. Tout à sa nervosité, elle ne l'exécuta pas aussi bien qu'elle l'aurait pu. Mais Emrez s'extasia malgré tout devant son dessin comme un père très fier. Elle termina le croquis et sortit sa laque, qui serait nécessaire car elle avait dessiné au charbon. Mais Emrez lui arracha d'abord la feuille des doigts.
« Incroyable !» s'exclama-t-il en levant la page. « Vous gâchez vos talents auprès de Tin, mais vous n'êtes pas capable de faire ça avec le texte. »
« Non, » mentit Shallan.
« Dommage. » Malgré tout, c'est merveilleux. Merveilleux. Il devrait y avoir des moyens d'utiliser ce talent.
Oui, sans aucun doute.
Il se tourna vers elle.
Quel est votre objectif, mon enfant? J'aurai peut-être une place pour vous dans mon organisation, si vous vous révélez fiable.
Oui. Je n'aurais pas accepté de venir à la place de Tin si cette idée ne m'effleurait pas.
Emrez l'étudia attentivement.
Vous l'avez tué, n'est-ce pas?
Oh, bourrasque!
Shallan rougit immédiatement, bien entendu.
Ah!
S'exclama Emrez. Elle a enfin choisi une assistante trop douée.
Merveilleux! Après tous les grands airs qu'elle se donnait, elle a été vaincue par quelqu'un qu'elle pensait transformer en flagorneuse.
Je n'ai pas... répondit Shallan. Enfin, je ne voulais pas. Elle s'est retournée contre moi.
Voilà qui doit être une sacrée histoire,
lui dit Emrez en souriant. Et pas d'un sourire très agréable.
Sachez que ce que vous avez fait n'est pas interdit, mais que ce n'est pas vraiment encouragé. Nous ne pouvons pas diriger correctement une organisation si les subalternes considèrent le meurtre de leurs supérieurs comme leur principale méthode de promotion.
Entendu.
Votre supérieur, en revanche, ne faisait pas partie de notre organisation. Tin se prenait pour une chasseuse quand elle n'était que le gibier depuis le départ. Si vous voulez nous rejoindre, vous devez comprendre une chose. Nous ne sommes pas comme d'autres que vous avez connus. Nous possédons un objectif élevé. Et nous sommes très protecteurs les uns vis-à-vis des autres.
Entendu.
Donc, qui êtes-vous ?
Demanda-t-il en faisant signe à son serviteur de lui rapporter sa sarbacane.
Qui êtes-vous réellement ? Voile.
Quelqu'un qui veut agir, répondit Shallan. Prendre part à des entreprises plus importantes que de voler quelques pâles iris ou de les arnaquer pour quelques jours de luxe.
Dans ce cas, c'est une chasse,
répondit doucement Emrez, un rictus aux lèvres. Il se détourna d'elle pour se diriger de nouveau vers le bord du pavillon.
D'autres consignes vont suivre. Accomplissez la tâche qui vous est confiée. Ensuite, nous verrons.
Dans ce cas, c'est une chasse? Quel genre de chasse?
Cette déclaration fit frissonner Shallan. Cette fois encore, elle n'était pas très sûre qu'on venait de la congédier. Mais elle referma sa sacoche et fit mine de s'en aller. Ce faisant,
Elle lança des coups d'œil furtifs aux personnes restées assises. Leur expression était glaciale, d'une effrayante froideur. Shallan quitta le pavillon et découvrit que la pluie avait cessé. Elle s'éloigna et crut sentir des regards braqués sur son dos. « Ils savent tous que je suis capable de les identifier avec exactitude, » comprit-elle, « et que je peux présenter des dessins précis d'eux à toute personne qui en ferait la demande. » Il n'apprécierait guère. Emrez lui avait bien fait comprendre que les sangs des spectres ne s'entretuaient pas souvent, mais aussi qu'elle n'en faisait pas partie. Pas encore. Il l'avait dit d'un ton plein de sous-entendus, comme s'il en accordait la permission à ceux qui l'écoutaient. Par la main de Talat, dans quoi s'était-elle fourrée? C'est seulement maintenant que tu y réfléchis, se dit-elle en contournant le flanc de la colline. Sa voiture se trouvait un peu plus loin, avec le cocher qui se prélassait sur le toit en lui tournant le dos. Shallan regarda nerveusement par-dessus son épaule. Personne ne l'avait suivi pour l'instant, du moins pour autant qu'elle puisse le voir.
« Motif, est-ce qu'on m'observe ? »
demanda-t-elle. « Moi, pas de gens. » Un rocher. Elle avait dessiné un rocher dans le croquis fait pour Emrez, sans y réfléchir. Mue par l'instinct et une bonne dose de panique, elle aspira de la fulgiflamme et façonna une image de ce rocher devant elle. Puis elle s'empressa de s'y cacher. Il y faisait très noir. Elle se recroquevilla à l'intérieur du rocher, assise avec ses jambes ramenées contre elle. Une posture très peu digne. Les autres personnes avec lesquelles travaillait Emrez ne faisaient sans doute pas ce genre de bêtises. Ils étaient expérimentés, habiles, compétents. Non des foudres. Elle n'avait peut-être même pas besoin de se cacher. Elle resta malgré tout assise là. L'expression des autres, la façon dont Emrez avait parlé. Mieux valait pécher par excès de prudence que par naïveté. Elle était lasse que les gens la supposent incapable de s'occuper d'elle-même.
« Motif, » chuchota-t-elle, « va jusqu'au cocher. Dis-lui ceci avec ma voix. Je suis entrée dans la voiture pendant que vous aviez le dos tourné. Ne me regardez pas. Il faut que je fasse une sortie discrète. Ramenez-moi en ville. Arrêtez-vous près des camps de guerre et attendez en comptant jusqu'à 10. Alors je partirai. Ne me regardez toujours pas. Vous recevrez votre paiement. « Avec un bonus pour votre discrétion. »
Motif s'éloigna en bourdonnant. Peu après, la voiture se mit en marche, tirée par ses parches. Il ne fallut guère de temps avant que des claquements de sabots ne retentissent à leur tour. Elle n'avait pas vu de chevaux. Shallan attendit, nerveuse. L'un ou l'autre des sangs des spectres allait-il s'apercevoir que ce rocher n'était pas censé se trouver là? Allait-il revenir la chercher? En constatant qu'elle ne descendait pas de la voiture une fois rejoint les camps de guerre? Peut-être n'était-il même pas parti à sa poursuite. Peut-être se montrait-elle paranoïaque. Elle patienta. Il se remit à pleuvoir. Quel en serait l'effet sur son illusion? La pierre qu'elle avait dessinée était déjà mouillée, si bien qu'un temps sec ne dévoilerait pas la supercherie. Mais à en juger par la façon dont la pluie tombait dessus, elle traversait visiblement l'image. « Je dois trouver un moyen de voir l'extérieur pendant que je suis cachée comme ça, » se dit-elle. « Des trous pour les yeux ? Pouvait-elle en créer à l'intérieur de son illusion ? Peut-être qu'elle... Des voix. »«
Il va falloir découvrir ce qu'elle sait au juste. »
La voix de Emrez.
« Vous allez apporter ces pages à Maître Taïdakar. Nous touchons au but, mais il semblerait que les acolytes de Restarès aussi. »
Une voix râpeuse lui répondit. Shallan ne parvint pas à distinguer les mots.
« Non, ce n'est pas lui qui m'inquiète. Ce vieil idiot sème le chaos, mais il ne cherche pas à s'emparer du pouvoir quand l'occasion lui en est offerte. Il se cache dans sa cité insignifiante, à écouter ses chansons, en croyant qu'il joue un rôle dans les événements mondiaux. Il ne se doute de rien. La place qu'il occupe n'est pas celle du chasseur. Le cas de cette créature de Tukar, en revanche, est différent. Je ne suis pas persuadée qu'elle soit humaine. Si elle l'est, en tout cas, elle n'appartient pas aux espèces locales. »
Emrez continua à parler, mais Shallan n'entendit plus rien lorsqu'ils s'éloignèrent. Peu après, de nouveaux bruits de sabots retentirent. Elle patienta tandis que l'eau s'infiltrait dans son manteau et son pantalon. Elle frissonna, sa sacoche sur son giron, et serra les dents pour les empêcher de claquer. Le temps avait été plus doux ces derniers jours, mais le fait d'être assise sous la pluie le contredisait. Elle attendit jusqu'à ce que son dos se plaigne et que ses muscles se mettent à hurler. Elle attendit jusqu'à ce que le rocher, enfin, se change en fumée luminescente et se volatilise. Shallan sursauta. Que s'était-il passé ?
La fulgiflamme, comprit-elle en étirant ses jambes.
Elle inspecta la bourse dans sa poche. Elle avait vidé toutes ses sphères, inconsciemment, en maintenant l'illusion du rocher. Des heures s'étaient écoulées, et le ciel s'assombrissait à l'approche du soir. Maintenir une illusion aussi simple que celle du rocher n'aurait pas dû exiger une grande quantité de flamme. Et elle n'était pas obligée d'y penser consciemment pour la faire durer. C'était bon à savoir. Cependant, elle s'était ridiculisée à nouveau en ne se souciant même pas de la quantité de flamme qu'elle utilisait. Elle se releva en soupirant. Ses jambes flageolèrent, protestant contre ce mouvement soudain. Elle inspira profondément, puis s'avança pour aller jeter un coup d'œil furtif au-delà de la colline. Le pavillon avait disparu, et toute trace des cent des spectres avec lui.
J'imagine que ça veut dire qu'il faut que je marche,
commenta-t-elle en reprenant la direction des camps de guerre.
Tu t'attendais à autre chose ?
Demanda Motif, d'une voix sincèrement curieuse depuis l'emplacement qu'il occupait sur son manteau.
Non, répondit Shallan. Je parlais toute seule.
Non. Tu me parles à moi.
Elle s'avança dans le soir, transie de froid. Ce n'était cependant pas le froid mordant qu'elle avait subi dans le sud. Si elle n'avait pas été trempée, l'air lui aurait sans doute semblé agréable, malgré l'obscurité. Elle passa le temps en s'exerçant à pratiquer les accents avec Motif. Elle parlait, puis lui faisait répéter exactement ce qu'elle avait dit, avec sa voix et son intonation. L'entendre ainsi l'aidait beaucoup. Elle maîtrisait l'accent Aleti. Elle en avait la certitude. C'était une bonne chose, car Voile prétendait être Aleti. Cet accent-là était facile, toutefois, car le Véden et l'Aleti étaient si semblables qu'on pouvait pratiquement en comprendre un si l'on connaissait l'autre. Son accent mange-corne était également très juste, en Aleti comme en Véden. Elle s'améliorait et apprenait à ne pas l'exagérer, comme le lui avait suggéré Tin. Son accent bavane était passable en Véden comme en Aleti, et pendant la majeure partie du trajet de retour, elle s'entraîna à pratiquer les deux langues avec l'accent erdasien. Palona lui en fournissait un bon exemple en Aleti, et Motif pouvait lui répéter des phrases qu'elle avait dites, ce qui était très utile pour s'entraîner.
Ce qu'il faut que je fasse, dit Shallan, c'est entraîner à parler pour accompagner mes images.
Tu devrais les faire parler elles-mêmes, répliqua Motif.
C'est possible de faire ça?
Pourquoi pas?
Parce que, eh bien, j'utilise la flamme pour créer l'illusion. Et elle crée donc une imitation de lumière. C'est logique. Mais je ne sais pas comment utiliser le son pour les créer.
C'est un flux, répondit Motif. Le son en fait partie. Ils sont cousins. Très semblables. C'est possible à faire.
Comment ?
D'une certaine manière.
Merci, c'est très utile.
Je suis content, il s'interrompit. Mensonge ?
Oui.
Shallan fourra sa sage main dans sa poche, également trempée, et continua à marcher à travers des carrés d'herbe qui se retiraient devant elle. Au loin se déployaient des collines sur lesquelles des graines de la vie poussaient dans des champs de polypes bien ordonnés, quoiqu'elle ne distingue pas de fermier à cette heure-ci. Au moins, la pluie avait-elle cessé. Elle appréciait toujours la pluie, mais elle n'avait pas réfléchi au désagrément que représentait le fait de devoir parcourir une longue distance par ce temps. Et puis...
Qu'est-ce que c'était que ça ?
Elle s'arrêta net. Une sorte de touffe sombre projetait une ombre sur le sol devant elle. Elle s'en approcha, hésitante, et perçut une odeur de fumée. Le genre de fumée humide que l'on sent après qu'un feu de camp vient d'être éteint. Sa voiture. Elle la distinguait à présent, partiellement brûlée dans la nuit. Les pluies avaient éteint le feu. Il n'avait pas duré longtemps. Ils avaient dû faire naître l'incendie à l'intérieur, où le bois était sec. C'était certainement celle qu'elle avait louée. Elle reconnaissait les ornements des roues. Elle s'approcha d'un pas hésitant. En tout cas, elle avait eu raison de s'inquiéter. C'était une bonne chose qu'elle soit restée en arrière.
Quelque chose la tracassait. Le cocher. Elle se précipita,
redoutant le pire. Elle trouva son cadavre étendu près de la voiture brisée. Regard fixe tourné vers le ciel. On lui avait tranché la gorge. Près de lui, ses porteurs parches étaient disposés en tas, tous morts. Shallan se rassit sur les pierres humides, prise de nausée, et plaqua la main contre sa bouche. Oh, tout puissant. Bourdonna Motif, qui parvint curieusement à adopter une intonation morose.
Ils sont morts à cause de moi,
murmura Shallan. Tu ne les as pas tués.
Mais si, répondit Shallan, aussi sûrement que si j'avais tenu le couteau. Je savais dans quel danger je m'aventurais. Mais le cocher, lui, n'en savait rien.
Les parches non plus. Qu'éprouvait-elle à leur sujet? D'accord, c'était des néantifères. Mais il était difficile de ne pas être révolté par ce qui venait d'être commis.
Tu vas provoquer des choses bien pires que ça si tu réussis à prouver ce qu'affirme Jasna,
lui souffla une partie d'elle. Brièvement, en voyant Emrez surexcitée par ses desseins, elle avait eu envie de l'apprécier. En tout cas, elle ferait bien de se rappeler ce moment-ci. Il avait autorisé ces meurtres. Ce n'était peut-être pas lui qui avait tranché la gorge du cocher, mais il avait pratiquement autorisé les autres à éliminer Shallan s'ils le souhaitaient. Ils avaient brûlé la voiture pour faire accuser des bandits, mais aucun bandit ne s'approcherait à ce point des plaines brisées.
« Pauvre homme, » songea-t-elle à l'intention du cocher. Mais si elle n'était pas venue en voiture, elle n'aurait pas réussi à se cacher comme elle l'avait fait,
tandis que le cocher semait une fausse piste. Nom des bourrasques.
Comment aurait-elle pu s'y prendre pour que personne ne meure? Est-ce que ça aurait seulement été possible?
Elle finit par s'obliger à se lever, et, les épaules voûtées, elle continua à marcher vers les camps de guerre.